Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 3. Où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30. Et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club. Vaste édifice, élevé dans Pall Mall, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une reading sauce de premier choix, d'un roast beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseille verte, d'un morceau de Chester, le tout arrosé de quelques tasses de cette excellente thé, spécialement recueillie pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45, et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h20, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stewart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre. Personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, » demanda Thomas Flanagan, « où en est cette affaire de vol ?»« Eh bien, » répondit Andrew Stewart, « la banque en sera pour son argent. »« J'espère au contraire, » dit Gauthier Ralph, « que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. » Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. « Mais on a donc le signalement du voleur ?» demanda Andrew Stewart. « D'abord, ce n'est pas un voleur, » répondit sérieusement Gauthier Ralph. « Comment ce n'est pas un voleur ?»« Cet individu qui a soustrait 55 000 livres en banknotes ?» 1 375 000 francs. Non, répondit Gauthier Ralph. C'est donc un industriel? Dit John Sullivan. Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. Celui qui fit cette remarque n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de banknotes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonner qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement et, pour ainsi dire, à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de banknotes ne revint pas, et quand la magnifique horloge, posée au-dessus du Drawing Office, sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, des agents, des détectives, choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2 000 livres, 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait, pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stewart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist, Stewart devant Flanagan et Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robres, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit Andrew Stewart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. » « Allons donc, répondit Ralph, il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille ?»« Je n'en sais rien, répondit Andrew Stewart. Mais après tout, la terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, à vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. » La discussion fut suspendue pendant le robre, mais bientôt Andrew Stewart la reprenait, disant « Comment, autrefois, est-ce que la terre a diminué, par hasard ?»« Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de M. Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. » Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stewart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stewart n'était pas convaincu, et la partie achevée. Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois ?
En 80 jours seulement, dit Phileas Fogg.
En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours, depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsula Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le Mont Cenis et Brindisi, railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, Chine, paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, Japon, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, railroad, 7 jours. De New York à Londres, paquebot et railway, 9 jours. Total, 80 jours.
Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stewart, qui par inattention coupa une carte maîtresse.
Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc.
Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois, la discussion ne respectait plus le whist.
Même si les Hindous ou les Indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stewart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs.
Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta, 2 atouts, maître.
Andrew Stewart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant «
Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique... »«
Dans la pratique aussi, monsieur Stewart. »«
Je voudrais bien vous y voir. »«
Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. »«
Le ciel m'en préserve, » s'écria Stewart. « Mais je parierais bien 4 000 livres, 100 000 francs, qu'un tel voyage... » fait dans ces conditions est impossible.
Très possible au contraire, répondit Monsieur Fogg.
Eh bien, faites-le donc.
Le tour du monde en 80 jours?
Oui.
Je le veux bien.
Quand?
Tout de suite.
C'est de la folie, s'écria Andrew Stewart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. Tenez, jouons plutôt.
Refaites alors, répondit Phileas Fogg. Car il y a mal donne.
Andrew Stewart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup, les posant sur la table,
« Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il, oui, je parie 4 000 livres. »«
Mon cher Stewart, dit Fallentin,
calmez-vous, ce n'est pas sérieux. »«
Quand je dis je parie, répondit Andrew Stewart, c'est toujours sérieux. »«
Soit, dit monsieur Fogg. » Puis se tournant vers ses collègues.
« J'ai 20 000 livres, 500 000 francs, déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. »«
20 000 livres ! » s'écria John Sullivan. « 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre ?»«
L'imprévu n'existe pas, » répondit simplement Phileas Fogg.
« Mais, monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. »
Un minimum bien employé suffit à tout.
Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer.
Je sauterai mathématiquement.
C'est une plaisanterie.
Un bon anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en 80 jours ou moins. Soit 1920 heures, ou 115 200 minutes. Acceptez-vous ?
Nous acceptons, répondirent messieurs Stewart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph, après s'être entendus.
Bien, dit monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai.
Ce soir même ? Demanda Stewart.
Ce soir même, répondit Phileas Fogg.
Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, « puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères
vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. » Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les six co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable, projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrait à M. Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes. « Je retourne carreau, » dit-il. « À vous de jouer, M. Stewart. » Fin du chapitre 3. Cet enregistrement fait partie du domaine public.